Chapitre 8. Elle le regardait, blême d'horreur et pourtant incrédule. « Vous ne pensez pas ce que vous dites ?» Il hochait la tête affirmativement. « Oh, je vous parle ainsi parce que vous me connaissez, que je vous connais. Se connaître à première vue est chose plus commune que le coup de foudre. Allez, tenez, ne parlons plus de Montfort et allons canoter. » Elle entra dans l'embarcation sans mot dire. Elle se sentait heureuse d'être avec lui. Elle ne s'expliquait pas très bien le calme de Long quand il parlait de la fin prochaine de Montfort. Cependant, elle jugeait qu'il était ces hommes qui n'exagèrent rien, même pour créer un effet. « Quel âge avez-vous ? » demanda-t-il brusquement. « Oh, presque 23 ans. » « Je suis très vieille, vous voyez. » Elle se blâma encore d'avoir ajouté cette piètre coquetterie. Long, qui ramait dans le courant, remarqua simplement « Bon, je pensais que vous aviez à peine 20 ans quand je vous ai vu. » Il regardait par-dessus son épaule la maison qui s'éloignait. Seule l'influence extraordinaire de la beauté abolit l'âge. Une femme belle n'a que l'âge que vous lui donnez. » Elle le regarda, sa gaieté revenue. « Êtes-vous toujours aussi franc avec toutes les femmes ?» Et elle ajouta d'un air modeste. « Il suffit d'avoir une jolie peau pour paraître jolie. Bon, je connaissais une femme dont la peau était celle d'une pêche. Elle louchait, elle avait un nez comme un éléphant. » Il est vrai que j'ai rarement affaire aux femmes. Je connaissais aussi Kat, qui était très jolie, avec les cheveux dorés et les yeux d'une grande beauté. La dernière fois que je l'ai vue, elle peignait des anges à Heilbourg. Peignait où, à Heilbourg? Oui, à la prison des femmes. Je vais faire avoir 20 ans. Nora, un peu choquée, ne répondit rien. Il reprit. Oh, lorsque j'étais enfant, j'ai lu 2 fois entièrement l'encyclopédie. Je sais à peu près tout ce qu'il est utile à un policier de savoir, mais les femmes m'étonneront toujours. Vous fâcherez-vous si je vous dis que vous êtes plus que jolie? Elle rit. Bon, cela me ferait plutôt plaisir, confessa-t-elle. Le bateau descendait le courant. Elle ne regardait pas le paysage. Son étrange compagnon occupait toute sa pensée. Il disait, « Et puis, vous avez les plus beaux yeux du monde !» Elle leva un doigt menaçant. « Monsieur Long, je crois que vous êtes en train d'esquisser un flirt. » Il expliquait, « Oh non, 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 je n'essaye pas. « Je vous fais simplement des remarques qui me semblent justes. »« Êtes-vous fiancée ?» Elle secoua la tête. « Non, je suis une exception. Je n'ai jamais été fiancée. » Il respira profondément. « C'est certainement original, » dit-il. Nora s'aperçut qu'ils avaient rejoint la rivière tout près du bateau tragique. Il le frôlait. Long s'y amarra en murmurant « Je vais vous montrer quelque chose. » Sautant sur le bord, il se pencha pour lui tendre la main et la hisser auprès de lui. L'état d'abandon du bateau de Shelton était évident. Les planches du pont pourrissaient. Le fond était envahi par l'eau. C'est ici qu'il avait sa presse à imprimer. Il la faisait marcher avec un moteur électrique dont les accumulateurs sont toujours là. Entrez. Elle le suivit dans l'obscurité de la cabine et il alluma une allumette. Qu'est-ce que vous pensez de ces sortes de prophéties ? Demanda-t-il en montrant sur l'un des panneaux de bois une rangée de dates sculptées au couteau. Nora s'approcha et lut 1er juin 1854 JXTL 6 septembre 1862 9 février 1886 11 mars 1892 4 septembre 1896 12 septembre 1898 30 août 1901 18 juillet 1923 plus 1er août 1924. Près de la date de juillet 1923, une simple petite croix avait été sculptée. La jeune fille demanda : Mais qui a gravé ces dates et que signifient-elles ? Je voudrais bien le savoir. Oh, 18 juillet 1923, ça c'est facile. Il a été pendu ce jour-là. À ce moment, l'allumette s'éteignit. Pendant un instant, les deux jeunes gens furent plongés dans l'obscurité. Un sentiment de peur insurmontable s'empara de Nora, qui dans l'ombre repoussa son compagnon et franchit la porte vers la lumière. Il la suivit plus lentement, après avoir pris le soin de fermer la serrure. Nora songea tout à coup que Long était sans doute l'actuel propriétaire du bateau. Son intuition ne la trompait pas. « Oui, les sculptures ont été découvertes l'année dernière, lorsque j'ai acheté le bâtiment et que j'ai commencé à nettoyer. Le bois qui recouvrait ces inscriptions intéressantes n'était pas fixé au mur, il était simplement appliqué. Mais enfin, il ne pouvait pas prévoir la date de sa mort, dit-elle. Non, non, ce sont les terribles qui ont fait cela. Nora le regarda dans les yeux. Plaisantait-il? Elle croyait deviner un peu d'ironie dans le ton de sa voix. Elle secoua la tête. Vraiment, je ne sais plus que penser. Vous avez bien entendu parler de rebouteux ou de sorciers. Revenez dans le bateau. Nous sommes trop près du bord, ici. Il ne plaisantait pas. Ses yeux examinaient la pelouse devant la maison vide. Il restait campé au milieu du pont, les deux mains appuyées aux hanches. Mais même quand il fit un geste vers elle pour la faire reculer, il ne la regarda pas. Son attention tout entière était réservée à la maison, au store baissé et à un massif qui se trouvait près du sentier. Le temps d'une seconde, Nora frissonna, pleine de l'idée qu'un danger effroyable les menaçait. Elle croyait sentir la présence d'un guetteur inconnu, la menace d'un regard plein de haine. Il parla comme s'il avait pu lire en elle. « Non, non, maintenant, il n'y a personne. C'est hier soir qu'on est venu. J'avais placé un fil au travers de la porte et ce fil est rompu. » Chapitre 9. Arnold Long resta silencieux pendant le retour. Il allait contre le courant avec de longs et puissants coups de rame qui conduisirent le bateau sous le couvert d'un arbre dont les branches pendaient au-dessus de l'eau et s'accrochant à l'une de ces branches, il arrêta l'embarcation. Puis il parla. « Il faut être un homme intelligent pour vivre une vie double. Shelton en vivait 6 à ma connaissance. Il y avait un homme qui écrivait des histoires pour un magazine d'enfants et qui s'appelait Greenside Jackson. Son autre nom était Shelton. Un autre écrivait des opuscules philosophiques. C'était encore Shelton. À Léocoville, il y avait un petit imprimeur appelé Simon. Et ce Simon et Shelton abritaient leur tête sous le même chapeau. Et dans le comté d'Oxford, un fermier vendait en gros des œufs et de la volaille. Oh, son affaire était prospère, il faisait travailler 2 douzaines d'employés. Pierce était le nom inscrit dans l'annuaire du téléphone. Mais à la police, nous l'appelions Shelton. Près de l'église du temple, il y avait un vieux monsieur qui avait un bungalow et une moto. Oh, il pêchait beaucoup. C'était même un des meilleurs pêcheurs de la région. Il prétendait se nommer Walter James. Et tout ce que je sais de lui, c'est que c'était encore et toujours Shelton. Voilà ce que je connais de cet homme. Mais c'est ce que je n'en connais pas qui serait intéressant. Il y aurait de quoi remplir des volumes. Était-il marié ? Demanda-t-elle, subjuguée. Oh non, je ne crois pas. Soudain, elle se rappela la dernière date gravée sur le bateau, 1er août. On était le 23 juillet. Que va-t-il arriver le 1er août ? Demanda-t-elle à son compagnon. Il continuait, comme s'il n'avait pas entendu la question. Personne ne veut croire aux terribles. Moi, au moins, je suis sûr de leur existence. Mais je suis bien mal renseigné sur leur compte. De temps en temps, je les devine, je trouve quelques traces. Le vieux Shelton avait escroqué plus d'1 million de livres aux diverses banques. Mais vivre de 6 manières différentes, cela coûte cher. Et puis peut-être jouait-il aux courses. La plupart des aides s'en foutent, d'une façon ou d'une autre. Il donnait aussi beaucoup d'argent à ses messagers. On n'en voit pas pour rien en Amérique encaisser des lettres de crédit. Une fois, un de ses complices prit un train spécial de New York à Sacramento. Il descendait à chaque grande ville, encaissait à la banque et repartait. Il était rentré à Londres avant que le premier faux ne fût découvert. Extrêmement fort, évidemment. Long s'interrompit puis reprit. Oui, je devine ça et là quelques-uns des terribles. Tenez par exemple. Monkford avait un frère qui s'enfuit dernièrement à Fracombe pour passer ses vacances. Il s'y noya. On le retrouva sur la grève en costume de bain un beau matin. Monkford crut d'abord que c'était un accident. Sans doute c'était un accident. Les terribles s'étaient trompés de Monkford. Elle le regarda effaré. Assassiné ? Il acquiesça en souriant vaguement. Soudain, elle le vit se raidir, pencher la tête en avant et regarder une masse de buissons sauvages qui bordait la rivière. Une de ses mains fouilla sa poche, l'autre décrocha lentement de la branche le bateau. Une fois de plus, son cœur battit, elle eut la chair de poule. Elle le regarda, vit ses yeux fixés sur les buissons, et il crut entendre un étrange froissement. Le bateau virait lentement, et elle s'aperçut que c'était lui qui, au moyen de la branche, imprimait à l'embarcation cette rotation. Le mouvement s'arrêta. Long se trouvait alors placé entre elle et l'endroit où elle croyait percevoir ce bruit inquiétant. Il reprit les avirons, se remit dans le courant, et sans rien dire, sans donner d'explication, se dirigea vers le bord opposé. « Avez-vous vu notre voisin ? » demanda-t-il soudainement. « Oh, c'est une des curiosités de Marlowe. Je l'appelle Hercule, mais les gens d'ici lui donnent un autre nom. Il était à la banque le jour de l'arrestation de Shelton, et il m'aida merveilleusement. » Les gens qui semblent fatigués se portent fort bien, quelquefois. Arnold s'interrompit. Un paysage ravissant apparaissait au bord de la rivière, avec une maison derrière l'inévitable pelouse. Mais le jardin était merveilleux. L'or, le bleu, le rouge sombre, la pourpre saupoudrée d'argent flambaient dans une confusion harmonieuse. Le cottage était à moitié caché par les roses grimpantes et les glycines. les colonnes d'une pergola disparaissaient sous les roses. Au bord de l'eau, une tente à grosses rayures rouges et blanches protégeait un homme couché sur une chaise longue. Il se leva paresseusement lorsqu'il aperçut le bateau. C'était un être mince, aux traits peu accusés. Il envisagea les visiteurs qui venaient à lui sans remarquer d'intérêt apparent. « Hello, Long !» dit-il languissamment, tandis que ses yeux pâles regardaient la jeune fille. La main qu'il offrait à Nora après les présentations semblait inanimée au point qu'elle en éprouva une impression pénible. « Long, montrez donc le jardin à mademoiselle. Je vous en prie, cueillez toutes les fleurs qu'il vous plaira. »« Que pensez-vous de Jackson Crowley ?» demanda Long quand il se fut éloigné avec la jeune fille. Et lui-même ajouta en riant, « Oh, c'est un genre de lézard à la mode. Il n'est là que pour la saison. Il revient de Deauville ou d'Aix, peut-être. » À propos, allez-vous à Hitchies pour la semaine de golf ? Oui, pourquoi ? Dit-elle, surprise. Est-ce là une réunion à la mode ? Il répondit quelques mots qu'elle ne put saisir, mais elle put comprendre que la phrase n'était pas à la louange du jeu de golf. Lorsqu'ils revinrent de leur visite au jardin, ils trouvèrent leur hôte achevant une conversation avec une jeune femme. Nora serra la main morte et prit congé pour quelques mots de félicitations sur l'ordonnance du jardin. « Venez un autre jour !» dit Crowley, toujours étendu sur sa chaise longue, et sans même prendre la peine de déguiser sa délivrance en voyant s'éloigner ses visiteurs. Évidemment, Mankford n'avait pas continué à se reposer, car Long et Nora le retrouvèrent allant et venant au bord de la rivière. Les pêcheurs étaient à leur place, de chaque côté de la pelouse, leur attention toujours concentrée sur leur flotteur. Nora se demanda s'il prenait jamais quelque chose. « J'espère revoir Mademoiselle Revelstoke à Hitchies la semaine prochaine, » dit Mankford. Dites-lui donc qu'elle devrait jouer au golf. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. » Au moment de partir en voiture pour la gare, Nora eut l'occasion de remarquer le mur qui protégeait la villa du banquier. Il semblait de construction récente, était fort élevé, et le faîte en était garni de trois rangées de pointes aiguës. Près des grilles, qui semblaient neuves aussi, se trouvait un homme fumant une pipe de bruyère et qui ne semblait guère plus inoccupé que les pêcheurs. Dans le train qui les ramenait, Long se mit à parler avec un mélange d'enjouement et de nervosité. À la préfecture, tout le monde se moque de moi et de mes terribles, mais il n'en est pas moins vrai que le juge qui condamna Shelton est mort. Et où est l'avocat général ? Mort, lui aussi. Je reste vivant, et Mankford est encore vivant. À ce moment-là, la vitre du compartiment vola en éclats, et quelque chose passa en bourdonnant comme une abeille furieuse. Arnold ne bougea pas, mais dit « Oh, je parierais que l'homme qui a tiré cette balle est mort également à l'heure actuelle. » Le train s'arrêtait. Brusquement, le policier descendit en jetant à Nora un rapide au revoir. « L'imbécile !» bougonnait-il tout bas en regardant le train s'éloigner. « Tu veux faire le malin en effrayant une femme ?» Un taxi le mena vers l'endroit d'où le coup de feu était parti. Il ne lui fut pas difficile de retrouver le lieu précis, une hutte utilisée par des ouvriers pour leurs outils. Parallèle à la ligne, on voyait un champ d'avoine qui bordait aussi la route. Arnold était accompagné par un agent de police qu'il avait requis en route. Il s'attendait à trouver l'homme près des rails, mais le cadavre était plus loin, dans le champ, qu'entourait un talus à peine plus haut que les avoines grandissantes. C'était probablement un vagabond, un ancien soldat. On remarquait des rubans passer sur son vieux gilet. « Tué par derrière !» dit Long après un bref examen. « Pauvre diable !»« Mais qu'est-ce que c'est que ce carnet, sergent ?» Le sergent de police lui passa un calepin qui venait de ramasser près du corps. Long en feuilleta les pages graisseuses et quelques lignes au crayon l'intéressèrent. Troisième wagon après la machine, deuxième fenêtre, ne tirez pas si la jeune fille est à la fenêtre. Oh, ce garçon ne manquait pas de méthode, murmura Long. Mais comment a-t-il pu obtenir si rapidement ses instructions? En se retournant, il remarqua des éclats de lumière du haut d'une colline. Il épela, suivant les longues et brèves du morse, les jeux de lumière. BCNFLD. Beaconsfield. Un inconnu envoyait des signaux au moyen d'un miroir. Un instant d'après, les lueurs indiquèrent LNGSRCHGFLD. Long Explore Champ. Le détective fit un rapide calcul. La portée d'un tel message est fort étendue. Le meurtrier était sans doute assez loin de Marléo et pouvait cependant lire l'avertissement. Il n'y avait pas de téléphone avant la ville voisine. Il prit le parti de regagner Londres. Le lendemain matin, les journaux publiait l'annonce suivante. Ancien soldat, attention. Il existe une organisation recherchant particulièrement ceux qui sont de bons tireurs et leur demandant d'accomplir des tâches de caractère criminel. Soyez persuadé qu'en acceptant de telles offres, vous courrez le plus grand danger, sans compter les inévitables poursuites judiciaires. Tout ancien soldat ayant reçu une offre de cette organisation doit en informer immédiatement l'inspecteur Long, bureau 709, New Scotland Yard. La somme de 300 livres sera payée pour tous les renseignements qui faciliteraient l'arrestation d'un ou plusieurs membres de l'organisation en question. Monsieur Jackson Crowley, en déjeunant, lut ce paragraphe dans son Daily Mail. Pensivement, il caressa sa moustache jaune, puis, se levant et abandonnant son déjeuner, il décrocha le téléphone et demanda un numéro qu'il obtint rapidement. « Avez-vous lu les journaux ?»« Il faudra renoncer aux anciens soldats. Long continue à nous donner du fil à retordre. Oui, je suis de votre avis. La semaine prochaine, nous pensons pouvoir les prendre ensemble. » Il retourna alors à son déjeuner avec un sentiment de réconfort, car la voix qui lui répondait avait prononcé l'arrêt d'Arnold Long. Au standard téléphonique de Scotland Yard, un policier était aux écoutes et avait entendu toute la conversation. Seulement, il n'en était guère plus avancé. Les deux interlocuteurs s'étaient exprimés en danois. Chapitre 10. Il était difficile d'émouvoir Mademoiselle Revelstoke. Rien ne troublait son calme imperturbable. Elle racontait que, pendant les bombardements les plus sérieux de Londres, elle n'abandonnait jamais le travail de lingerie auquel elle était occupée. Elle écoutait en ce moment la relation que lui faisait Nora de sa journée. « J'espère que vous avez eu un petit frisson dans cet horrible bateau, » dit-elle. Votre monsieur Long m'intéresse. Nous l'inviterons à dîner un de ces jours. En attendant, notre dîner de ce soir refroidi, et monsieur Henri doit commencer à s'impatienter. Frédéric Henri, homme de loi et parfois aussi écrivain, ne signifiait aux yeux de Nora qu'une quantité négligeable. C'était un jeune homme bien élevé, correct, et qu'on disait épris de la secrétaire de mademoiselle Revelstock. La jeune fille laissait dire. Elle le retrouva dans la salle à manger. Il avait l'air soucieux, et il dit, quand les deux femmes furent assises, je m'occupe en ce moment d'une affaire assez lugubre. Il conta alors comment la succession de Wallis, l'exécuteur des hautes œuvres, donnait lieu à un procès entre ses héritiers. Puis la conversation obliqua et on parla de Marlowe. Vous avez fait une grande impression sur Montfort, dit mademoiselle Revelstock à Nora. Oh, au téléphone, il s'extasiait sur votre compte. Moi, s'écria Nora surprise, mais il m'a à peine regardé. C'est certainement de la statue du destin noir qu'il parlait. Il fallut expliquer à Henri ce qu'était le destin noir. Vous avez vu aussi Jackson Crowley, dit mademoiselle Revelstock. Qu'en pensez-vous? Mon Dieu, il m'a pas fait grande impression. Oh, je l'espère bien, fit Henri avec indignation. Je ne connais pas d'être plus insignifiant. Oh, il vit en égoïste, en chérie mademoiselle Revelstock. Je le connais très bien. La conversation devenait languissante. Nora Sanders fit alors une chose qu'elle regretta immédiatement. Elle parla des terribles. Elle sentait bien qu'Arnold Long s'était confié spontanément à elle et qu'en ce moment elle le trahissait un peu. Elle tenta de couper court, mais les yeux sombres de mademoiselle Revelstock la surveillaient avec intensité. « Je crains que ce ne soit votre policier qui ait fait grande impression sur vous, Nora, » dit-elle. « Vous voilà tout émue. » Cette femme extraordinaire avait le don de lire dans la pensée de ses interlocuteurs. Henri, lui, riait doucement. « Oh, je suis parfaitement renseigné sur la vie de feu Charlton, » affirma-t-il. Je possède sur lui une impressionnante collection de documents. C'était essentiellement un solitaire. Il n'avait ni amis, ni parents, ni associés. Et c'est pourquoi il a pu échapper si longtemps à la police. Il s'étendit longuement sur ce fait avant de conclure. Vendetta n'est pas chose de chez nous, surtout une vendetta entreprise par des gens qui n'y auraient aucun intérêt. « Est-ce que Long vous a raconté quelque incident particulier au sujet des terribles ?» demanda mademoiselle Revelstock. C'est-à-dire qu'il craint. » Elle allait encore trop parler. Heureusement, Henri la sauva en l'interrompant. « Oui, il craint pour la vie de Montfort, c'est le secret de Polichinelle. » Mais je ne pense pas qu'il redoute quoi que ce soit pour lui-même. Il aime le risque. Mais quelle absurdité de penser qu'il puisse être menacé, dit mademoiselle Revelstock avec agacement. Réellement, Nora, il faut que vous m'ameniez votre policier. Depuis les romans de Gaboriau, on n'a plus idée d'un tel homme. Oh, il sera baronnet un de ces jours, précisa Henri. Et il héritera d'une bonne partie des 2 millions de livres que laissera le Lord son père. Cela explique son manque de popularité à Scotland Yard. Ses chefs craignent toujours qu'on les suspecte de le favoriser. Nora eut le plaisir, ce soir-là, d'échapper à la partie de piquet habituelle. Mademoiselle Revelstock ayant à s'entretenir avec son homme d'affaires. « Je ne vais guère m'amuser, dit Henri en passant près de la jeune fille. Elle sourit gentiment, prit congé et gagna sa chambre où elle n'attarda pas à s'endormir. Il pouvait être 1 heure du matin quand elle fut réveillée par sa maîtresse. « Je suis désolé de vous déranger. Puis-je entrer ?» Nora alluma l'électricité et Mademoiselle Rivelstock parut, toujours vêtue de l'éternelle robe de soie noire qui était en quelque sorte son uniforme de dîner. « Henri m'a demandé l'autorisation de vous faire sa cour. » « Me faire sa cour ? » ?»« Oui, il désire vous épouser. » Et naturellement, je lui ai dit que ça ne me regardait en aucune façon et que je ne vous influencerais point d'une manière ou d'une autre. « Oh, c'est un homme qui a beaucoup d'avenir et quelques fortunes. Oh, je crois fort ennuyeux, mais il pourrait faire un assez bon mari. Bonsoir. » Et elle se retira, laissant la jeune fille sur le coup de cette nouvelle. De telles demandes étaient une complication imprévue pour Nora. Monsieur Frédéric Henry était bien le dernier homme qu'elle songeait à épouser. Quand elle se rendormit, ce fut pour rêver des rivalités entre Henri et Arnold, chose qu'éveillée, elle n'aurait pas osé imaginer. Puis elle rêva qu'elle tombait entre les mains d'hommes épouvantables et d'autant plus terrifiants qu'ils étaient sans visage. Elle savait qu'ils appartenaient aux terribles, et derrière eux, elle devinait 3 formes plus vagues encore. Un juge, un avocat, un bourreau, ceux qui avaient déjà payé de leur vie la mort de Clay Shelton. Chapitre 11. À Scotland Yard, le colonel, sous les ordres duquel se trouvait Long, n'était pas content. « J'en ai assez de vos terribles, disait-il. Vraiment, je vous serais obligé de ne plus tourmenter le préfet de police avec vos histoires saugrenues. Tous les jours, j'ai à lui transmettre des notes confidentielles sur cette affaire. » Arnold Long redoutait ce manque de confiance de la part de ses supérieurs. Pour ceux-ci, la mort soudaine du juge, celle de l'avocat général, celle du bourreau, était chose normale. Il fallut une fois de plus qu'il revînt sur les circonstances troublantes qui avaient précédé à ses décès. Enfin, le chef conclut avec un peu d'impatience. « Oh, je peux que vous ayez raison. J'avoue que si Joshua Monkford est tué à son tour, il n'y aura plus de doute possible. » Long le regarda curieusement. « Bref, le banquier Monkford doit mourir pour persuader vos Scotland Yard. » « Mais c'est à vous de vous arranger pour qu'il ne meure pas. Avez-vous pris toutes les précautions nécessaires ?»« J'ai 2 policiers à Marlowe et 2 détectives privés aux caisses de l'association des banques, mais ce n'est pas Marlowe, quel danger !»« Où alors ?»« À Hertie's, » dit Long. « Oh, c'est un genre de club ou bien une sorte d'hôtellerie. » tenu par un nommé Crowell. On y trouve le dernier mot du confort. Tout cela semblait familier au colonel. Est-ce qu'on n'y dispute pas un championnat de golf? Certes, le championnat le plus chic d'Angleterre. Bon prétexte pour des rendez-vous mondains et des exhibitions de toilettes. Pour moi, j'ai l'impression que c'est là que Monkford sera en danger. Et une impression vaut souvent un tas d'informations précises. Le colonel regarda pensivement le jeune policier. « J'ai remarqué, dit-il lentement, une chose assez curieuse au sujet des faux de Clay Shelton. »« Quoi donc, monsieur ?» fit Long, qui s'attendait à une réflexion fort anodine. « Il n'est jamais allé voler votre père. » Arnold se redressa, stupéfait. C'est ma foi vrai. Son père était à la tête d'une des plus grandes banques de la cité, et cette banque était dirigée selon des principes caducs. Prendre de l'argent à la Western and Somerset équivalait à dépouiller un mendiant aveugle. C'est curieux, répéta le policier. Le colonel venait de réussir une chose dont il n'était pas coutumier. Il avait donné ref à réfléchir à son subordonné. Chapitre 12. En quittant son chef, Long prit un taxi jusqu'à Bartley Square. Il n'avait pas vu son père plus de 6 fois depuis le début de l'année. Il trouva Sir Godley en train de corriger une autobiographie de Savonarole. Il cultivait une passion pour la Renaissance italienne. Le lord enleva son lorgnon et regarda son fils avec intérêt. Est-ce le policier qui vient me voir ou dois-je prendre cette visite comme un acte de piété filiale? Oh, ni l'un ni l'autre, dit Arnold sombrement en prenant un cigare dans un coffret d'argent. Il s'assit et, à brûle-point, demanda: Faites-vous partie de l'association des banques? Pourquoi? Je voudrais que vous répondiez d'abord à ma question. Naturellement, ma banque fait partie de l'association. Mais je n'y ai moi aucune position officielle. C'est Weldon qui nous représente. D'ailleurs, je ne pourrais point faire partie d'un comité où se trouve Monkford. Il m'ennuie trop. Avez-vous déjà entendu parler des terribles? Oui, j'ai entendu parler de beaucoup de gens terribles. Mais auxquels faites-vous allusion? Ceux dont parlent vos articles? Arnold acquiesça. Non, je ne les connais pas. Shelton, naturellement, m'était connu, quoiqu'il ne m'ait jamais rien pris. Mais pensez-vous vraiment que Mankford soit en danger? Mais c'est un homme mort. Il avait parlé si sérieusement que son père en fut impressionné. Après un temps de silence, Arnold posa la question qu'il méditait. Mais pourquoi Clay Shelton ne s'est-il jamais attaqué à votre banque? Peut-être n'étions-nous pas un assez gros gibier pour lui. Mais dites-moi, Arnold, si vous pensez vraiment que les terribles constituent un tel danger, pourquoi ne pas abandonner la tâche? Vous vous êtes assez amusé comme cela. Vous savez que je puis vous offrir une position intéressante ici. Il rencontra le regard calme de son fils. Voilà la seconde offre sérieuse que vous me faites cette année, dit-il lentement. Mais quand je vous ai dit que je cherchais Clay Shelton, vous m'avez offert 10 000 livres pour diriger votre succursale de l'Amérique du Sud. Vous aviez l'air particulièrement intéressé à me voir m'expatrier à ce moment-là. Pourquoi? Sir Godley détourna son regard et se mit à rire. Il dissimula assez mal un certain malaise. Oh, que vous êtes bizarre, dit-il. Mais votre travail de policier a complètement détruit en vous tout sentiment de confiance. D'ailleurs, ni le père ni le fils ne parlèrent plus désormais de Clay Shelton et des terribles. Il était presque minuit lorsque Long prit congé. Sir Godley l'accompagna jusqu'à la porte. La maison donnait sur le côté ouest du square où les voitures étaient rares. Remarquant le vide de la rue, le banquier proposa de téléphoner à une station de taxi. Arnold refusa en riant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il serra la main de son père et s'en fut à pied. Il avait à peine fait 50 mètres quand il entendit des pas derrière lui. La lumière d'un réverbère lui montra une femme qui courait. Et tout à coup, une balle frôla. Quelqu'un tirait avec un Browning. Il vit l'homme armé debout au milieu de la chaussée. Visait-il la femme? La réponse fut rapide. Une seconde balle frappa la grille à peine à un pied de l'endroit où il se trouvait. Il tira son propre revolver, mais il n'eut pas le temps de faire feu. La femme, essoufflée, pantelante, se jetait dans ses bras en criant « Sauvez-moi! Sauvez-moi! Les terribles! Les terribles !» Chapitre 13. L'agresseur inconnu avait disparu comme s'il se fût dissous dans la nuit. Au moment où Long soutenait de ses bras la jeune fille à moitié évanouie, il vit son père qui se précipitait vers lui, devançant un valet de chambre. « Qu'est-il arrivé ?»« Oh, un simple incident. Aidez-moi donc à transporter cette pauvre fille. » Ensemble, ils portèrent la jeune évanouie jusque chez Sir Godley. Le policier la considérait, cherchant dans sa mémoire le lieu où il l'avait déjà rencontrée. Il trouva tout à coup. C'était l'autre jour chez Jackson Crowley. Elle portait une robe du soir fort élégante, une magnifique broche de diamants ornait son corsage et ses doigts étincelaient de bagues. Oh, je ne sais pas ce qui est arrivé, dit-elle quand elle reprit ses sens. Et elle entreprit une narration peu cohérente. Elle et son frère étaient propriétaires d'un hôtel aux environs de Londres. Ils avaient un pied-à-terre dans la cité où ils couchaient assez souvent. Elle était allée au théâtre et, la nuit étant belle, elle avait préféré marcher un peu au retour. Près de Berkeley Square, elle avait remarqué une voiture arrêtée près du trottoir. Comme elle allait la dépasser, deux hommes en avaient bondi brusquement, leur visage était caché par des foulards. Je fus si terrifié que tout d'abord je n'ai pas songé à résister. J'essayais de me pousser dans la voiture, puis un troisième individu surgit en disant « Imbécile, c'est pas Nora Sanders !» Et celui qui me tenait me lâcha aussitôt, et je me mis à courir. Et j'entendis encore crier « Tirez sur elle !» C'est alors que je vous aperçus et que je m'évanouis. Long avait écouté en silence. « Mais je vous ai déjà vu, dit-il. Vous êtes bien Mademoiselle Crevel. » « Oui, mon frère et moi sommes propriétaires de l'hôtel de Hertsies. Vous êtes sûr qu'ils ont prononcé le nom de Nora Sanders ?» Oh, sûr, dit la jeune fille, c'est un nom que je connais bien. Nora Sanders est la secrétaire de Mademoiselle Rivelstock, qui descend assez souvent chez nous pour le week-end. Nous l'attendons lundi prochain. Long se mordait la lèvre pensivement. Décidément, l'intérêt de l'action se concentrait sur Hertsies. Non seulement Nora Sanders serait là, mais Joshua Monkford y avait loué deux chambres pour cette fin de semaine, et lui, Long, devait occuper une de ces chambres. C'était à Hilton, sans doute, que Monkford devait être assassiné. Oh, policier en était persuadé. Il fit appeler un taxi et reconduisit chez elle la jeune fille. Puis il se dirigea vers Scotland Yard, réfléchissant au nouveau problème que posait cet attentat contre la propriétaire de l'hôtel où le banquier Monkford devait se rendre bientôt. Le lendemain matin, de bonne heure, il quitta Londres pour Hertsies et arriva à l'hôtel avant que les clients ne songeassent encore à leur bain matinal. C'était une très belle maison de vieux style située au milieu d'un grand parc. Son golf était réputé dans toute l'Angleterre. Les appartements étaient confortables, voire luxueux, et la cuisine excellente. L'oncle fut reçu par un grand jeune homme aux traits flegmatiques, dont l'allure était celle de certains domestiques supérieurs, et qui lui dit dès l'abord: Vous avez été témoin de l'aventure désagréable survenue à ma sœur. Oh, elle m'a téléphoné hier soir. Vous êtes bien l'inspecteur Long. N'a-t-on pas retenu une chambre à mon nom pour la semaine prochaine? Si, justement. Ce directeur était fort calme. Le danger récemment couru par sa sœur ne semblait pas troubler sa sérénité. D'ailleurs, il expliquait: Mais ni ma sœur ni moi ne nous connaissons d'ennemis, que je sache. Mais en revanche, nous avons de nombreux amis. Cette attaque ne peut donc provenir que d'une méprise. Avez-vous pu arrêter les agresseurs? Non, c'est regrettable. Désirez-vous voir votre chambre? Elle communique avec celle de M. Mangford. Mais je voudrais surtout savoir qui vous attendez samedi. Cravel prit un registre, l'ouvrit et en tira une liste qu'il communiqua au détective. Mademoiselle Revelstock descend ici régulièrement? Oui, elle ne s'intéresse pas beaucoup au golf, mais elle aime les réunions mondaines. Jackson Crayley est aussi un de vos clients pour la semaine de golf? Certes, il était déjà ici l'année dernière. D'ailleurs, M. Crayley est un peu de mes amis. Ma sœur en a souvent été le voir à Marlowe. Puis il continua, donnant des détails sur son industrie. Sa sœur Alice s'occupait de la réception, assistée d'un clerc et d'un comptable. Elle tenait aussi la caisse. Le policier alla visiter sa chambre. Elle faisait partie d'un appartement composé de 3 pièces, dont 2 chambres à coucher et un salon. Le tout était orné de panneaux de vieux chêne dont les plinthes s'élevaient à mi-hauteur des murs. Ceux du salon étaient faits de bois clair. Long remarqua que chaque chambre possédait un téléphone particulier dont le contact s'établissait par une prise de courant fixée au mur. À chaque chambre correspondait une salle de bain. Sous les fenêtres, un toit de verre s'étendait sur 20 mètres. Cravel lui expliqua que c'était là le toit du restaurant. Le détective trouvait cette disposition très commode. Il lui semblait impossible que l'on pût pénétrer du dehors à cause du toit vitré qui n'eût supporté le poids d'aucune échelle. Il y avait 3 portes dans sa chambre, toutes de chêne épais et comportant serrures et verrous de sûreté. L'une de ces portes donnait dans la salle de bain, l'autre dans le couloir et la troisième communiquait avec le salon. Machinalement, il fit le tour de la pièce, sondant les panneaux. Cravel sourit. « Oh, ne cherchez pas d'issue secrète. Tout a été refait ici et seuls les murs extérieurs subsistent de l'ancienne bâtisse. » Comme il descendait, Cravel se hasarda à interroger. « Excusez-moi, monsieur Long, mais avez-vous une raison précieuse qui vous pousse à ce séjour chez nous? Pourquoi ?» Oh, je ne sais pas. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs étranges concernant Mangford. M. Crayley, qui est son voisin, nous raconte qu'il vit dans la terreur d'être assassiné. Jackson Crayley me semble savoir bien des choses au sujet de son voisin, fit sèchement l'inspecteur. Il revint à Londres en proie à un malaise indéfinissable, et ce ne fut que le soir, en se couchant, qu'il décela la cause de cette inquiétude. Les murs austères de l'hostellerie de Hersey's ne lui disaient rien qui vaille. Sous leur revêtement de lierre, il lui semblait qu'ils fussent comme imprégnés d'une atmosphère tragique.